Toujours un plaisir d'accueillir Daniel Brière. Salut, Daniel.
Salut, mon Ron.
Ça va bien?
Très bien, merci. Toi-même?
Bon. Ah ben oui, tabarouette de Colin. Ah ben oui. OK, regardons le côté, l'aspect des Flyers de Philadelphie d'abord. OK, parfait.
OK.
Voyage difficile dans l'Ouest. J'imagine que cette belle victoire des Flyers hier à Vegas, ça place les choses un petit peu.
Ça calme les esprits beaucoup à Philadelphie, je peux vous le dire, parce que, écoute, les Flyers ont connu quand même un bon début de saison. Le match en Europe face aux Blackhawks de Chicago, très belle victoire, mais par la suite, là, ça s'est gâté. Comme tu as mentionné, le voyage dans l'Ouest n'a pas été très, très bon. Donc, ça a commencé à faire peur. Là. Les gens commencent à rouspéter un peu. On a peur de revoir les Flyers des deux, trois dernières années. Mm-hmm. Mais hier, c'était une très, très grosse victoire face à une bonne équipe là, de Las Vegas.
Précisons que le match était à Philadelphie devant les partisans hier. Les attentes des partisans, justement. Les Flyers se retrouvent à 500 à peu près. Là. Mais les attentes, ouais. Écoute, ça ne sera pas facile. Hein? On le sait, toi non. Et moi, on le sait. Il va y avoir à peu près 7 équipes qui vont se battre pour deux places. Tu sais.
Oui. Écoute, je pense que les attentes à Philadelphie étaient que... Il n'y a personne qui s'attend à ce que les Flyers gagnent la Coupe Stanley. Je pense pas qu'ils sont prêts à ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver une fois que tu arrives dans les séries, mais c'est pas les attentes. Mais on s'attend à ce que ce soit une équipe beaucoup plus compétitive que l'an dernier, une équipe qui se bat justement pour une de ces places-là en séries éliminatoires. Puis les gens espèrent qu'on va avoir des séries éliminatoires ici à Philadelphie. C'est ça qui sont les attentes là, du côté des Flyers. Puis surtout avec le nouveau groupe d'entraîneurs qui sont arrivés ici.
Ouais.
Tu sais, les gens sont très, très... sont contents, sont heureux, ont confiance. Les commentaires que j'entends là, dans la ville, les gens ont très confiance en Alain Vigneault et son groupe d'entraîneurs.
OK. Mais Alain Vigneault était connu à Philadelphie. Il veut pas cette rivalité, les Rangers puis les Flyers. C'est
exact.
Normal,
exact. Ça faisait plusieurs années, les gens ont appris à le connaître avec, comme tu as mentionné, la rivalité avec les Rangers.
Ouais.
Puis écoute, Alain Vigneault, là, quand tu regardes sa feuille de route, c'est quand même très, très, très impressionnant.
Ouais.
Fait que les gens là, s'attendent à ce qu'ils soient capables de tourner la machine de bord.
Comment est-ce sur Kevin Hayes?
Mais Kevin Hayes, écoute, c'est difficile dans le cas de Kevin Hayes parce que, écoute, il ne ramasse peut-être pas les statistiques d'un joueur qui devrait se faire payer 7 millions
ouais,
par
ça.
Année, mais à le regarder jouer, il rend les joueurs alentour de lui meilleurs. Le fait aussi qu'Alain Vigneault était son entraîneur à New York, je pense que ça l'aide, sa transition. Tu sais, côté système de jeu, il est déjà habitué, Alain a une affinité avec lui. Mais quand on regarde son rôle, tu sais, après un Sean Couturier, c'était difficile de trouver un autre centre, surtout depuis que Claude Giroux était déplacé à l'aile. C'était difficile de trouver du punch à l'attaque, deux joueurs qui fait peut-être faire peur un peu à l'adversaire, mais qui fait contrôler l'adversaire. Maintenant, avec Kevin Hayes et Sean Couturier, puis là, tu peux ramener Claude Giroux au centre aussi. Là, au moins, ça renforce ta ligne de centre. Puis, tu sais, on entend souvent les gérants généraux, vous l'avez entendu souvent à Montréal, Marc Bergevin qui dit t'es centre, tu dois être fort au centre.
Ouais. Ouais.
C'est un peu là, ce qui faisait mal aux Flyers les deux dernières années. Donc, c'est là que Kevin Hayes vient vraiment remplir son mandat.
En conversation avec Daniel Brière, Travis Konecny est le meilleur joueur des Flyers, un des meilleurs depuis le début de la saison.
Oui, écoute, dans le cas de Konecny, ce qui est intéressant, c'est que les dernières années, c'est un joueur qui se fiait beaucoup, il jouait bien, puis les gens disaient c'est un joueur qui jouait bien quand il jouait avec Giroux et Couturier.
Ouais.
Il a souvent été leur ailier droit, puis écoute, il bénéficiait un peu là, du fait de jouer avec un gars qui jouait bien défensivement Sean Couturier, puis un joueur qui était capable de faire des bons jeux en zone offensive en Claude Giroux. Mais il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il devienne un joueur qui puisse marquer à lui seul ou sur d'autres lignes. Il y avait toujours de la difficulté quand on le changeait de ligne. Puis là, ce qui est intéressant dans son cas, puis je pense que c'est un peu côté mature, son jeu mature en vieillissant, il est capable de créer des chances de marquer pour lui et ses coéquipiers, même en ne jouant pas avec un Claude Giroux. Fait que ça, là, c'est ça que les Flyers aiment voir de Travis Konecny.
Coach Colorado, lui, dit que Caulfield, la jeune merveille, le choix du Canadien, c'est qu'on parle à Brett Hall, Ovechkin, puis là, Colorado, il peut-tu se décider? Il ressemble à qui, là? Parce que les trois c'est tellement des joueurs différents. Dans...
c'est tout un problème à avoir.
Ouais. Ouais, c'est ça.
C'est le fun d'entendre ça. Ouais. Il est vraiment impressionnant. Il trouve des façons de marquer de toutes sortes de façons différentes. C'est le fun. S'il peut vraiment continuer à se développer, puis que le Canadien ait trouvé un joueur comme ça, là, que ça fait quand même, peut-être un patch ready était comme ça, mais d'après moi, je pense que Cole Caulfield peut être encore plus scoreur là, qu'un patch ready éventuellement. Du moins, c'est ce qu'un peu tout le monde au Québec va souhaiter.
Surtout dans le nouveau hockey.
Surtout dans le nouveau hockey. Ben écoute, puis tu sais, c'est ça qui est un peu, tout le monde a peur un peu avec sa taille. Mais la façon dont le jeu se développe aujourd'hui, ouais. On essaie d'aider les joueurs offensifs, même ça aide aussi les joueurs de plus petite taille. Je pense pas que ce soit un problème dans le cas de Caulfield, du moins je l'espère. Jusqu'à date, il répond aux attentes au niveau collégial, fait que ça c'est très très bon.
Toi qui gères un petit peu une équipe de hockey, qui conseille aussi dans l'organisation des Flyers de Philadelphie, disons que je te parle d'un dilemme que le Canadien pourrait avoir dans quelques mois et peut-être quelques années, OK? Parlons ouvertement de la situation de, mettons, je donne un exemple, Max Domi. Bon, Max Domi, il faudrait que le Canadien le signe incessamment. Ils disent peut-être pas dans la saison régulière, mais incessamment. Puis Brendan Gallagher, lui, ben lui ici, dans 2 ans, il faudrait une nouvelle entente. À 30 ans, là, il va avoir une nouvelle entente. Bon, si tu signes Max Domi, parce que Max Domi, disons, il termine encore le meilleur pointeur comme l'année passée du Canadien pendant cette année, c'est-à-dire, bien là, il va peut-être exiger 6,5, 7 millions par année pour 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas. Bon, tu fais quoi avec Gallagher un an plus tard? Gallagher, je veux dire, il me fait penser un petit peu à Max Pacioretty. On l'a signé à bon prix, si on peut dire. Parce que Max, mais Brendan Gallagher, actuellement, là, c'est pas cher. C'est pas cher payé là, pour un gars qui est le meilleur marqueur. Puis probablement la bougie de l'allumage de l'équipe. Fait que, qu'est-ce que tu fais avec un dossier de même, toi, comme administrateur? Tu regardes ça comment?
Écoute, c'est toujours difficile. Tu essaies de voir à long terme qu'est-ce que ces joueurs-là vont continuer de t'amener. Puis aussi, à long terme, pas juste que Gallagher et Domi vont t'amener, mais est-ce que tu as quelque chose en arrière pour les remplacer si tu les perds?
OK.
C'est ça qui est intéressant. Puis là, le Canadien se place de mieux en mieux parce que il y a quelques années, on se posait des questions. Qui va remplacer des joueurs comme Pacioretty qui vont partir à un moment donné? Là, maintenant, là, quand tu regardes ce qui s'en vient du côté du Canadien, on le voit ici avec Kotkaniemi, on le voit avec Suzuki qui m'impressionne énormément. Les deux derniers matchs. Puis il y a aussi Pauling à Laval présentement qui va très bien.
Kotkaniemi, c'est un bon joueur aussi à devenir.
C'est ça. Fait que là, il y a du talent offensif qui peut remplacer ces joueurs-là. Donc, ça devient un peu plus facile si jamais les choses ne se développent pas.
Se gâte. On est trop exigeant, c'est ça? Là? Si on est trop exigeant, puis là, ben, on peut peut-être à ce moment-là dire « Ah! » Mais comment, toi qui as joué avec Brendan Gallagher, comment ça serait perçu de ne pas lui donner à peu près ce qu'il veut? Puis ça dépend ce qu'il veut aussi. À 30 ans, tu lui donnes-tu un contrat de 6 ans? Il faut qu'il y pense deux fois. Mais Gallagher, il représente quoi pour le Canadien?
Ben écoute, pour moi, comme tu as mentionné, c'est la bougie de l'allumage. C'est le, on dit en anglais, le heart and soul de l'équipe. C'est lui qui a du front tout le temps, tout le tour de la tête. Écoute, jouer avec lui, là, t'as pas le choix de te présenter. Parce que lui, il fonce au filet, il fonce d'un joueur adverse, que ce soit le gardien ou un défenseur ou le meilleur joueur de l'autre équipe, il a pas peur, il arrête pas. Puis t'as pas le choix de suivre un exemple comme ça. Fait que, c'est une autre chose à évaluer. Tu sais, quand tu perds un joueur comme, si tu viens qu'à perdre un joueur comme Gallagher, est-ce que t'as quelqu'un d'autre pour le remplacer qui peut t'amener un peu cette énergie-là? Donc, c'est toutes des choses à évaluer, mais il y a pas de doute que un gars comme Gallagher trouve des façons, amène beaucoup d'intensité puis de joie de jouer pour de tous les joueurs là, du Canadien. Quand tu le vois jouer, tu n'as pas le choix de suivre. Ce serait dangereux de perdre.
T'apportes un bon point, Daniel Brial, tu sais, parce que le Canadien a échangé son capitaine, Pacioretty, OK, son franc-tireur. Le Canadien a échangé Galchenyuk, OK? Quand même, un peu avant, Piquet aussi. Ben, tu sais, ils ont échangé des gars, mais vogue la galère par la suite. Là, je veux dire, ça n'a pas fait que le Canadien s'est retrouvé démuni. Non, au contraire. Je pense que dans la transaction Pacioretty et Galchenyuk, le Canadien a sorti hautement gagnant. Il y a des joueurs que tu ne peux pas échanger. Il y a des joueurs que si tu échanges. Je pense que Gallagher, il faut que tu y penses deux fois avant de le laisser partir. Comme tu dis, c'est le cœur et l'âme de l'équipe. Tu as drôlement raison. Mais le dilemme est difficile.
C'est dur. Ouais. C'est difficile de trouver des joueurs qui peuvent jouer de cette façon-là.
Ouais.
Puis aussi de continuer à produire offensivement comme un Gallagher année après année.
Ouais.
Puis moi, je me disais toujours, ça fait quand même déjà 5 ans que j'ai joué avec lui. Puis je me disais, écoute, la façon dont il joue, est-ce qu'il va être capable de jouer de même un autre 2 ans?
C'est ça!
Puis là, tu vois, ça fait 5 ans qu'il continue. Ces cibles sont dures à trouver, sont dures à remplacer. Ces joueurs-là qui jouent de cette façon-là.
Mais regarde là, je vais faire une comparaison, OK? Puis, tu sais, t'arrives à Gallagher à son âge, à 30 ans, OK? Puis là, tu dis, la façon dont il joue au hockey, Byron, on peut dire la même affaire. La façon dont Paul Byron joue au hockey, OK?
Ouais. Mm-hmm.
Petit de taille, à 5 pieds 9, ça fonce, ces gars-là. Ça fonce. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Paul Byron? Là, Paul a 30, mais ils ont donné un contrat pour 3 ans encore à Paul Byron. 3 années encore à 3,4 millions, là. Mm-hmm. C'est un joueur actuellement qui va jouer sur un 4e trio, là, à peu près, là. Tu comprends? Alors là, ça, ils n'ont pas voulu le perdre. Lui ici, c'est une petite bougie à sa façon. Il a marqué des buts importants. Mais Tabarouette, ils ont donné 4 ans à 3,4 millions. Alors, le danger, c'est qu'il s'est blessé, tout ça. Puis là, il n'est plus le même Paul Byron qu'il y a de ça 2-3 ans où il avait marqué 22 puis 20 buts. Tu vois, ça peut arriver, ça.
Ça peut arriver. Écoute, c'est quand même respectable. Quand on regarde un contrat comme celui-là, à 3-4 millions, c'est respectable. Puis tu peux vivre avec ça beaucoup plus facilement, disons, qu'un joueur qui veut 7-8 millions par année. Parce que les marqueurs de 25-30 buts maintenant, là, c'est ça qu'ils se font payer.
Okay.
C'est 7-8 millions. Donc ça peut faire peur. Si Gallagher arrive et dit, écoute, moi, je veux 8 millions pour les 6-7 prochaines années, c'est là que ça fait peur. Dans le cas de Byron, moi, ce que j'aime, c'est que c'est 3,4 millions que tu as dit.
C'est ça.
C'est respectable.
Bon, mais comment ça vaut sur le marché? Comment ça vaut Paul Byron sur le marché comme tel? Si tu voulais l'échanger, Paul Byron, l'inclure dans une transaction, tu ne peux pas avoir un défenseur de premier plan pour Paul Byron, là, parce que officiellement, officieusement, c'est un joueur de... Fait que, tu sais, tu dis, OK, il peut être utile pour 3,4, mais c'est pas un gars que tu peux échanger pour aller chercher du talent.
Non, c'est pas un joueur, puis surtout avec ce qui s'est passé là dans la dernière année, les blessures et tout, les équipes auraient peur de mettre la main sur un gars comme Byron. Mais moi, ce que j'aime dans le cas de Byron, même s'il joue sur le 4e trio, s'il y a des blessures
c'est vrai.
Premier ou deuxième trio, c'est un joueur qui peut venir t'aider.
C'est vrai.
Des fois, là, beaucoup plus que, tu sais, par exemple, on avait, disons, un Dale Weiss l'année passée qui faisait sensiblement le même salaire, peut-être un petit peu moins, mais qui était un peu dans la même situation. C'était rendu difficile. Dale Weiss avait de la difficulté, disons, à suivre si tu avais besoin de lui pour jouer sur un des deux premiers trios. Tandis qu'un Paul Byron, d'après moi, peut encore t'aider, peut encore t'en donner si tu as besoin de lui là, sur un trio offensif. C'est un peu ce que j'aime là, du côté de Byron.
OK. Deux dernières questions à mon invité, Daniel Brière. Moi, je trouve que la faiblesse du Canadien, c'est la défensive. OK? Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a place à amélioration. Ça fait juste 6 ans que je le dis. Qu'est-ce que tu penses de Sherrod? Puis, qu'est-ce que tu penses du fait que Matthew Weber, Kulak Petrie, Sherrod Fleury ou Sherrod Follin ou Riley Follin? Tu sais, je veux dire, il y a trop de sixième défenseur là-dedans, là, pour moi, OK?
Je suis d'accord avec toi de ce côté-là. C'est pas... ça fait peur un petit peu. Moi-même, je pas certain là, de la profondeur à la défensive. Là, après qu'on ait dépassé le top 4, ça devient difficile du côté du Canadien.
Ouais. Alors,
Mais c'est pas facile. C'est pas facile de trouver des défenseurs. Puis toutes les équipes, les recherches, ces défenseurs-là qui peuvent jouer. Tu sais, y a personne qui veut donner de bons défenseurs ou du moins des défenseurs qui peuvent jouer dans le top 4. Les équipes veulent les garder ou sinon c'est des défenseurs qui font beaucoup trop d'argent que les gérants veulent se débarrasser là, de certains contrats.
Question Facebook ce soir. Vous avez voté récemment, bravo, peuple québécois. Mais depuis le début de la saison, je vous demande de voter encore. Qui a été le joueur le plus important chez le Canadien? Le joueur le plus important, selon Daniel Brière, pour le tricolore depuis le début de la saison.
Ah, écoute, il y a plusieurs noms de joueurs qui jouent très bien. Tu sais, je pense à un Max Domi qui a un bon début de saison. J'aime ce que Dano amène, mais c'est lui, c'est la constance année après année, match après match. Mais moi, un joueur que, puis un peu comme un peu tout le monde, puis je pense qu'on avait, on commençait à perdre espoir dans son cas, c'est Jonathan Drouin. Est-ce qu'il a été parfait? Non. Mais il nous en donne pas mal plus que ce qu'on pensait là, d'après ce qu'on avait vu pendant le camp d'entraînement. Donc pour moi, là, c'est un joueur clé en regardant en avant, en regardant dans le futur pour le reste de la saison. Pour moi, c'est la clé. Est-ce que Jonathan peut continuer à garder cette constance-là, continuer à performer offensivement, d'aider l'équipe? Ça, pour moi, là, c'est ça qui va décider la direction du Canadien.
C'est toujours agréable, toujours un plaisir, Daniel. Merci bien, bien gros. On se reparle sûrement bientôt.
Toujours le fun, Ron.
Toujours un plaisir.
À bientôt.
Bye bye. Geneviève Paquette, par la suite, sera notre invitée. Vous savez qu'elle est vice-présidente, engagement communautaire et directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Et on va parler de cette clinique de sang du Canadien demain. Et on va parler du Movember. Le mois de novembre s'en vient à grands pas.